Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou !
Vous écoutez les entonnoirs. Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
C'est fou. C'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi. Les anormaux.
Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal.
J'ai un coup de gueule à passer.
Mais faites quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
et ouais. Quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non, mais c'était dingo, là.
Il faudrait construire des asiles de cons, et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions. Tout ça dit,
bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, à l'émission des Entonnoirs, émission 268. Aujourd'hui, nous avons l'extrême privilège d'avoir à nos côtés Valenciennes.
Oui, nous sommes là.
Alors, on est très content de vous avoir. Alors, Valenciennes, un peu plus de cœur, allez.
Allez, là.
Allez, Valenciennes, ouais. Alors, aujourd'hui, au programme, nous allons avoir la musique de Roger Lucien. Puis je vous raconterai mon voyage à Le Portel. Et puis on aura une petite rencontre au Festival de Tours qui sera présentée par Ben. Puis une musique de Margot, ce sera du ZZ Top. Ouais, ouais. Et ensuite une histoire de Margot. Sophie, c'est à toi.
Oui, on va poursuivre avec moi. Je vais vous parler un peu du Centre Pompidou Mobile à Cambrai, c'est sur l'art. Ça tombe bien, c'est un truc un peu de fou comme nous. Ensuite, on va parler de la spirale de Jérôme. On va passer le disque Even 17 de Tiffen. C'est peut-être Even 70, hein. Je ne sais pas. Ensuite, il y aura un débat, ce sera une discussion sur l'énergie. Est-ce que l'énergie coûte trop cher? Est-ce que l'énergie, on en gaspille trop? Des trucs dans ce genre-là. Et on va finir avec une musique qui, ça va être 16.
Alors maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons commencer par une musique de Roger Lucien.
Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. Donc aujourd'hui, nous allons prendre la direction de l'Afrique centrale, plus précisément de la République démocratique du Congo, qui a pour capitale Kinshasa, où nous allons écouter un musicien, un chanteur qu'on appelle Lokua Kanza, et qui nous interprète « Vous vert ». Extrait de l'album intitulé Kolo.
Si on me joga na tema so como pena flotuar a sol. Se eu me perder poema buscando forma de não ser quem sou. Vou vendo para onde ser mais espero. Te quero onde for, tatuada nos lábios e no coração. O luar beijou sem querer a minha mão.
Se eu me entregar, não prenda. Sou como a pluma leve da ilusão. Se o mar levou, entenda. Fazemos parte de uma só canção. Vou vendo como tudo será. Espero, te quero onde for. tatuada nos lábios e no coração. O luar beijou sem querer a minha mão. Meu amor, meu amor, meu canga.
Pardon ? Ici des fous.
J'espère que nos chers auditeurs et auditrices auront apprécié cet extrait de l'album intitulé Colo de Lukwa Kanza et qu'on appelle ce morceau qu'on appelle Vouvert.
C'est très jazz.
Merci, Sharon.
Très jazz. J'aime bien le piano du début. On croirait que c'est du jazz, mais c'est africain. C'est vraiment génial.
Bah, moi,
c'est calme, ça apaise, ça. Ça incline au silence. Et on était silencieux dans le studio. Pour une fois, on se bagarrait pas.
Moi, je voulais dire que c'est la première fois que j'entends une chanson africaine avec du piano. Mmh. Et je voulais dire que c'était très doux, c'est très agréable. Et il y a un silence. Après, il y a un silence autour de cette musique et c'est appréciable. Quoi. Et Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as aimé?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé, c'est comme pense Jérôme, ça fait c'est pas de la musique africaine traditionnelle et ça change beaucoup, c'était très bien.
Maintenant nous allons...
Ça change du cliché.
Oui.
Ça change du cliché djembé quoi.
Oui, djembé.
L'Africain, pour les Européens, c'est des mecs qui tapent sur des
bambous.
Sur des bambous. Des bambous.
Ah, Ben veut dire quelque chose quoi.
Ouais, j'y parlais trop.
Non, c'est pas ça. C'est juste, je fais éruption parce que ça me dérange. En quoi du jazz à partir du moment où c'est chanté en africain, c'est plus du jazz? Là, je vous suis plus, là. Expliquez-moi pourquoi quelqu'un qui chante en africain sur du jazz, c'est de la musique africaine et c'est plus du jazz. C'est du jazz, putain. Ouais,
mais... C'est parce que c'est inhabituel.
Je voulais dire justement.
Ça sort des clichés,
c'est là. Tout est là. Au début, je l'ai dit que c'était du jazz. C'est du jazz.
Ah non, t'as dit. Mais au début, on dirait que c'est du jazz, ouais. Et puis en fait, c'est de la musique africaine. Ouais. Excuse-moi, ça me choque.
J'ai fourché, voilà, ma langue a fourché. Mais d'abord, je regrette. C'est du jazz, c'est vrai. Mais ça change. Avoue que ça change du cliché qu'on a, quoi. Du
cliché que tu as.
Peut-être. Ouais, alors, ouais. Voilà. C'est vrai, c'est vrai.
Il y a eu quand même Manu Dibango et d'autres. L'afrobeat, enfin l'afro.
Comme là, justement, c'est la. Il y a eu les Éthiopiques, la première fois que j'entends un morceau africain avec du piano.
Non, mais peut-être que j'ai pas l'oreille musicale, mais c'est la première fois que j'entends. Enfin, un morceau aussi doux, quoi. C'est la douceur du morceau qui m'a surpris.
Et surtout au piano.
J'ai déjà entendu. Ouais, surtout au piano. Peut-être j'ai déjà entendu de la musique africaine avec le piano.
C'est vrai que je suis particulièrement fâché avec les étiquettes musicales, mais je suis le seul que ça choque là autour de la table.
Non, mais c'est bien de rappeler qu'on ne pas oublier que on a tendance à être dans des clichés.
Voilà.
Et c'est bien à se dire que la musique, elle est le jazz, il peut être de partout.
Je l'ai dit cliché, je l'ai dit.
C'est oui.
Je me mets en tort. Je me mets en tort.
Après, tu peux pas empêcher de dire que c'est qu'il y a des influences africaines aussi dans le morceau. C'est
non, bien
jazz,
sûr, mais je t'avoue que c'est pas le premier truc qui me serait venu à l'esprit en écoutant ce morceau-là, je sais pas, à la radio ou n'importe où ailleurs. Je me serais pas dit, putain, c'est de la musique africaine, tu vois.
Enfin, bah, c'en est quand même.
Bah non, j'en sais rien.
Ah, mais les chansons, la chanson.
Si c'est un africain qui chante.
Mais, ouais, mais si c'est bah oui, dans ce cas-là, c'est une chanson chantée en africain, mais c'est pas de la musique africaine.
Il y a beaucoup d'influences.
Bah ouais, voilà, c'est quoi de la musique africaine? C'est...
Il y a beaucoup d'influences en Afrique, dans la musique africaine. Il y a des influences aussi extérieures, hein, parfois.
Bon, enfin voilà, c'était un mini débat pour commencer voilà, l'émission. Voilà, je vous laisse poursuivre.
Il fallait parler.
Attends,
fallait...
Ben, reste. Ah non, ça sera pour plus tard. Maintenant, on va partir sur la Côte d'Opale avec Tahar. On va partir à Le Portel.
Alors, chers auditeurs, chères auditrices, ce week-end, plus précisément dimanche, j'étais à Le Portel. J'ai été charmé par cette petite plage et puis cette petite digue. Mais malheureusement, au niveau commercial, c'est pas tout à fait ça. On peut pas faire de shopping, en fait, dans cette ville. Parce que, bon, bah, c'est une ville assez paisible ou qui aspire à la tranquillité. Et donc j'ai été un petit peu déçu par mon voyage. Et d'autant plus que bon, on a eu des problèmes de retard le matin. On a eu 40 minutes de retard de train pour aller à Le Portel. Et donc on a dû attendre 40 minutes à la gare de Lille. Alors je vous dis pas un petit peu le désarroi. Il faisait très chaud et donc il y avait une ambiance un petit peu suffocante dans cette gare. Ça sent le vieux cette gare, c'est une vieille gare. Et puis le soir, bon ben on avait acheté nos tickets auparavant et puis le soir on nous a demandé de quitter nos places parce qu'il y avait des personnes qui ont réservé et moi par exemple, j'ai dû quitter ma place deux fois. Mais bon, le soleil était au rendez-vous, mais bon, pour les personnes qui aiment la tranquillité, qui veulent aller avec leurs enfants, c'est un point que je leur conseille, mais pour le shopping, c'est pas tout à fait ça.
Et est-ce que vous vous êtes baigné?
Moi, je me suis baigné, j'en ai profité, j'ai ramené mon maillot de bain, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai plongé, c'était un ravissement, quoi. Je vous conseille la Côte d'Opale, quand il fait chaud, c'est très bien.
C'était des plages de sable fin, est-ce que tu as aussi ramassé des coquillages?
Non, j'ai même pas pensé, j'étais tellement attiré par l'eau, ça fait un moment que j'avais pas nagé, dans la mer, alors, j'étais omnibulé par l'eau, alors j'ai plongé, je me suis laissé aller. Après, j'ai fait une petite bronzette. Voilà.
T'es parti tout seul?
Non, je suis parti avec le groupe La Pause, avec le groupe d'entraide mutuelle La Pause. On était quand même 18 avec l'animateur. Hein. 18 personnes, ce qui est un sacré...
Ça marche bien.
Ouais, La Pause, elle marche bien. Ouais, on a des très bons résultats. Et puis, bon, par rapport aux années précédentes, avec La Pause, on a changé un petit peu nos directions par rapport aux plages, quoi. Au TER, on essaie de varier. Mais bon, ben, certains ont plus besoin que d'autres de certains repères. Ils ont besoin de leur petite plage avec leur sable fin, avec leur petit restaurant, leur moules frites, etc., les petits tarifs, tout ça. Et leurs petits souvenirs, quoi, qu'ils aiment acheter, quoi. Donc, contre ça, on peut pas y échapper. Donc, on refait notre pèlerinage dans ces lieux-là. Et puis, voilà.
Donc, une bonne journée, en somme.
Oui, une bonne journée. Je vous conseille les TER mer, TER vert aussi. Hein. Nous, on a profité de l'occasion. C'était 1 €. Donc, si vous voulez profiter de l'occasion, allez-y. Il n'est pas trop tard.
Rappelez comment ça fonctionne, le TER?
Alors, le TER mer, c'est un voyage qui vous emmène sur la Côte d'Opale, qui coûte 1 €. Vous pouvez aller n'importe où sur la Côte d'Opale, à Calais, Boulogne, etc. Mais il y a des destinations précises qui sont fixées par la SNCF. Il y a un catalogue qui est édité.
On reste debout. Dans le train?
Dans le train, non, pas forcément. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Et donc après il y a ce qu'on appelle le TER vert. Là c'est plutôt un TER campagne. C'est plutôt pour aller à la campagne. Et donc ça c'est à d'autres dates. C'est à des dates ultérieures, mais toujours pendant le mois de juillet et mois d'août. Et donc là vous allez à la campagne dans des bases de loisirs. Il y a des destinations précises.
Par exemple.
Il y a le Val Joly, le Quesnoy, la base de Rheims, Saint-Omer, le zone Maubeuge, etc. Avec des visites, bien sûr, payantes, mais bon, il y a toujours un tarif de groupe aussi.
Valenciennes, vous connaissiez?
Oui, on s'est passé beaucoup à la radio, mais c'est complet. J'ai cru que je suis allée à la gare, j'ai appris que les TER mer étaient complets pour les dates.
Mais ce sont des réservations ou pas?
Non, ce sont pas des réservations, mais après, ils ont un quota de tickets à vendre. Après, bon, bah, ils veulent plus vendre, hein, je pense.
Et donc, bah, je vous remercie pour votre écoute. Alors maintenant, nous allons passer au Festival de Dour, qui sera raconté par Ben. Alors Ben, raconte-nous un petit peu ton expérience.
Les pieds dans la boue.
Alors ben oui, en effet, 24e édition du Dour Festival, c'était chaotique, apocalyptique, les pieds dans la boue, de la pluie tout le temps. Mais c'était musicalement un des meilleurs Dour Festival que j'avais jamais fait, puisque c'était mon 12e, je crois, un truc comme ça. Et ouais, énorme. Alors évidemment, j'y suis allé pour travailler, hein, vous le savez, puisqu'on faisait 2 heures d'émission en direct de 17h à 19h sur RCV et puis retransmis sur d'autres radios en France. Donc tout le résultat de tout ça, vous pouvez aller l'écouter sur un site aujourd'hui, un blog qu'on a créé spécialement avec plein de photos, des vidéos et puis les interviews, les émissions, des extraits de concerts. C'est et c'est parti pour un dour.org. Donc si vous y allez, vous pourrez réécouter tout ça. Et puis que vous dire que...
Combien de groupes?
230 groupes sur 4 jours. Donc évidemment, on n'a pas interviewé les 230 groupes, hein, c'est impossible. On a fait un choix subjectif en fonction des émissions qu'on voulait faire et puis de nos auditeurs. Du coup, on a rencontré des groupes comme Marcel et son orchestre, par exemple, qu'on a eu en interview, dont on a enregistré le concert. L'Ofofora, je sais pas si ça vous parle aussi. Après, c'était des groupes un peu plus anglais, des mecs comme Roots Manuva qu'on a vu passer, Speech de Bell. Foreign Beggars, enfin voilà, des artistes très très douresques, j'ai envie de dire. Mais bon, ce qui ressortira de cette édition, c'est que c'était l'édition la plus boueuse qui ait jamais eu à Dour, et je crois que même Woodstock à côté pouvait se rhabiller.
Et vous avez fait des interviews quand même, Ben?
Ah ouais, tout à fait. Bah nous, on était au sec la journée, hein. Notre bâtiment, notre studio, il était dans un bâtiment dur avec un vrai toit et un vrai sol, donc c'était ça aide quand t'as besoin de travailler dans des conditions normales.
Et comment est l'ambiance générale quand il y a de la boue?
Ben, à vrai dire, c'était un peu plus refroidi que les années précédentes. Hein. Faut reconnaître que les gens arrivaient beaucoup plus tard sur le site. Parce que, contrairement aux autres années où on pouvait aller du camping, aller voir les concerts comme ça, sans se soucier du temps qu'on met et de la difficulté du trajet. Là, en l'occurrence, il fallait réfléchir à deux fois avant de faire un trajet parce que tu faisais pas demi-tour au milieu. Donc les gens, quand ils venaient sur le site, ils y restaient pour un long moment et quand ils en repartaient, ils revenaient plus, quoi. Ça fait qu'il y a eu beaucoup moins de circulation, des tentes un peu vides à certaines heures, surtout en début de journée. Donc c'est vrai que sur l'ambiance, ça s'est un petit peu ressenti, surtout en début de journée. Mais la nuit, l'alcool aidant, tout le monde avait oublié qu'il pleuvait, hein, de toute façon.
Et est-ce que le festival est payant, Ben?
Alors le festival est payant, c'est 100 euros le pass pour les 4 jours, plus 17 euros de camping. Ça paraît cher, mais comparé à énormément de festivals, au final c'est très démocratique. Aussi bien en rapport qualité-prix, nombre de groupes qu'on peut voir. Il y a 7 scènes qui jouent en simultané pendant les 4 jours, hein, donc c'est énorme. Pas le temps de t'ennuyer, il y a toujours un groupe à voir, toujours un truc à voir. Après, là où ils pourraient faire un effort, c'est sur l'accueil des festivaliers, c'est vrai. Parce qu'ils sont pas super balèzes là-dessus. Le camping, c'est l'anarchie au niveau hygiène et sanitaire. Ils peuvent repasser. Faut savoir que le créateur du Dour Festival, depuis l'année dernière, est ministre en Belgique. Puisqu'il était passé bourgmestre, hein, enfin maire de Dour. Et puis du statut de bourgmestre, il est devenu aujourd'hui ministre de l'écologie. C'est une bonne blague parce que quand on va à Dour, l'écologie c'est vraiment pas le thème principal du festival. Mais je salue Carlo Di Antonio, si tu nous écoutes, monsieur le ministre, félicitations.
Et je voulais savoir au niveau du terrain, est-ce que c'est énorme, ça doit être énorme quand même.
En fait, c'est une plaine, c'est sur une plaine. Donc c'est des champs qui sont réinvestis et qui sont saccagés d'ailleurs chaque année à ce moment-là. Donc ouais, de la surface, il y en a, hein. Ça tu peux y aller, tu marches beaucoup.
Combien de festivaliers environ? Environ.
Alors cette année c'était 129 000 sur les 4 jours, je crois, un truc comme ça. C'était la deuxième meilleure affluence de Dour depuis l'histoire.
D'accord.
Voilà. Merci à vous.
Merci
Ben. Et maintenant on va écouter ZZ Top, c'est un morceau qu'a choisi Margot.
Bon, je laisse Ben dire.
Donc on va écouter un morceau de ZZ Top que Margot nous a ramené. Le morceau s'appelle Cheap Sunglasses. Ça veut dire lunettes de soleil bon marché. Que je vous recommande vivement vu le temps qu'il commence à faire. Enfin, c'est l'été.
When you wake up in the morning and the light has hurt your head, the first thing you do when you get up out of bed is hit that street running and try to meet the masses. Go get yourself some cheap sunglasses. Oh yeah. Oh.
eyes and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. Man, what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah!
Pour moi, il n'y a pas de fou. Et il n'y a même pas de malade mentaux.
Les entonnoirs, les entonnoirs. Alors maintenant, nous allons passer à une histoire que Margot va nous raconter. Alors Margot, de quoi il est question ?
Bon, ben, je vais raconter la déchéance des sœurs March. C'est une histoire vraie, donc j'ai inversé les prénoms. Donc je vais commencer. C'est l'histoire de deux sœurs, Sophie et Corinne. Elles ont vécu leur enfance avec des parents inconscients du mal qu'elles subissaient. Jusqu'à l'adolescence, elles vivaient dans la peur. Mais un jour, la sœur cadette se réveilla et tout a basculé pour toute la famille. Aujourd'hui, ces deux sœurs incomprises sont devenues des orphelines. Leur mère ne les aime ne les a jamais aimés. Elle préfère le plus jeune des fils qui a moins souffert et maintenant a lui la belle vie. Voilà, donc c'est une histoire, je précise, vraie.
Et pourquoi cette histoire t'a touchée
Parce que c'est un petit peu ma vie à moi, personnellement. Voilà.
D'accord.
Mais il y a une fin heureuse.
Pas pour nous, pour mon frère, oui.
D'accord. Maintenant, Sophie, à quoi nous allons arriver maintenant?
À Pompidou Mobile. Oui, c'est. Je vais vous raconter un petit peu mon expérience que j'ai vécue au centre Pompidou Mobile à Cambrai, parce que j'y ai vu des merveilles et je vais vous en parler. Alors, je vais d'abord vous parler de la gamme jaune de Fantisek Kupka, qui date de 1907. Ce tableau représente le portrait d'un homme tenant un livre entre ses mains, les yeux tournés vers nous, les yeux remplis de noir et charbonneux. Mais le plus important, c'est le jaune de sa tenue, de son chapeau, du coussin sur lequel il pose sa tête, le jaune de la chaise et le fond. Le jaune emplit le tableau, en fait, et ça lui donne de la force, une ambiance percutante, pas ensoleillée mais lunaire. C'était très très beau. Vraiment, le jaune illuminait le tableau, ça donnait vraiment une très belle force. Ensuite, j'avais parlé du monochrome orange d'Yves Klein qui date de 1955. Un peu de culture d'abord. Après avoir étudié dans la marine et pratiqué le judo au Japon, Yves Klein se tourne vers l'ésotérisme en adhérant à la secte rosicrucienne. Il réalise des monochromes orange, vert, rouge, jaune et bleu, d'abord de toutes les couleurs, un peu, même si c'est des monochromes différents en fait. Avant d'en faire que des bleus, pour lui, ces tableaux voulaient donner la sensation de l'espace infini. C'est le nouveau réalisme. Et ce monochrome en est un exemple. Pas aussi fort que les monochromes bleus IKB, International Klein Blue, qu'il réalise en substituant à l'huile de lin un autre fixatif. Ce tableau montre que c'est la couleur en elle-même qui a de la force.
Et je voulais savoir, Sophie, qu'est-ce qu'un monochrome ?
Un monochrome, c'est un tableau d'une seule couleur. Chrome, couleur, mono, seul, une seule couleur. C'est très facile à peindre.
Alors maintenant, nous allons passer à la spirale et on va écouter un petit peu Tiefen.
Le disque, cet objet circulaire, comprend une spirale. La spirale tourne par la platine. Mais elle tourne aussi dans les têtes.
Bonjour, voilà, je vais vous présenter un morceau d'Hubert Félix Tiefen qui s'appelle Vendredi 13 à 5h, que j'avais programmé pour la semaine dernière mais qui n'a pas pu passer à l'antenne. Donc voilà.
Ce sera sans doute le jour de l'immatriculé contre instruction ou une connerie comme ça. Cette année-là, exceptionnellement, le 15 août tombera le vendredi 13, j'apprendrai par Radio Mongole International la nouvelle de cette catastrophe aérienne dans le secteur septentrional de mes hémisphères cérébelleux. Là où je mouille mes tankers de lucidité comique, les nuits où je descends la dernière avenue du globe en traînant ma tête dans un sac en plastique. Un vendredi 13 à 5h. Ce jour-là, je mettrai mon cocktail dans la barranque avec Muerto. Avec ma terre promise en kit et ma dysenterie en solo. Et les anges de la dernière scène viendront s'affronter à ma troupe. Passeport, visa, contrôle des gènes et radiographie de ma chute. Sur le compteur, nuages glacés à fleurs de peau dans l'étrange ivresse des lenteurs.
Et pour arroser mon départ, je voudrais que mon corps soit distillé. Et qu'on paye à tous les traîtres la dernière de mes tournées. Au pied, tranquille, tout ira bien. Au pied, couché, couché. Je m'écraserai sur Omega chez les clowns du monde AVC. En suppliant Waka Taka d'oublier, oh ouais, d'oublier. En suppliant Waka Taka d'oublier me réincarner, d'oublier me réincarner.
C'est Jérôme. J'avais envie de partager avec vous un morceau de Heaven 17, le 17e ciel. Le titre, c'est We Live So Fast. Nous vivons tellement vite. Et j'aime beaucoup le clap. Et maintenant, on va plutôt l'écouter. Envoie la sauce, Ben.
Il n'y a pas de fou. Et il n'y a même pas de malade mental.
Les entonnoirs, les entonnoirs.
Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a une intro, le morceau, et il y a une outro. C'est pas un fade, c'est... Voilà, il y a un point d'orgue. C'est très important. Et alors, j'attaque, on change de sujet, tard. L'énergie. Alors, nous les hommes, ça va aller très vite. Nous les hommes, on est des gros cons. On creuse, alors qu'il suffit de regarder, de lever la tête, et il y a notre étoile, notre étoile, le Soleil, qui peut nous apporter toute l'énergie nécessaire. Je suis un gros naïf. L'électricité, c'est gratuit. Le Soleil brille pour tout le monde. C'est parti, à vous d'argumenter.
Vas-y, Roger Lucien.
Moi, je vais continuer sur. Appuyer les propos de Jérôme. Moi, je pense que maintenant, on habite tous la même planète. Il faut être solidaires les uns des autres. Je pense que un pays, enfin le continent, l'Europe devrait plutôt tirer parti, par exemple du désert du Sahara, l'Afrique bien sûr aussi, et par exemple construire des panneaux, une multitude de panneaux solaires. Dans cette région où il fait chaud toute l'année, et c'est le plus grand désert du monde, le Sahara, et donc et faire passer, tirer des câbles à travers une partie de l'Afrique, une partie de l'Europe, et les faire construire un tunnel sous le détroit de Gibraltar, et il est même en projet d'ailleurs ce tunnel déjà. Et faire passer des câbles et alimenter une partie de l'Europe avec cette source d'énergie gratuite et abondante, inépuisable pour l'instant.
Je parle toujours de moi, c'est chiant. Mais c'est la vérité, ils m'ont coupé le gaz il n'y a pas longtemps, il a été rétabli ce matin. C'est pour ça que je suis arrivé aux entonnoirs en retard ce matin, ils m'ont rétabli le gaz. La facture était erronée. J'ai pas consommé pour 800 euros de gaz en 2 mois, je regrette. Surtout c'est l'été. Voilà. Mais en fait, du coup, j'oublie ce que j'allais dire d'essentiel. C'est que j'ai oublié, merde.
En fait, bon, je vais continuer. Bon, puisque.
Ouais, voilà. Voilà. Alors, j'ai demandé à GRDF de me brancher, de me mettre en relation avec quelqu'un qui s'occupait du solaire pour chauffer mon eau, pour avoir juste l'eau chaude, panneau solaire, mais juste pour l'eau chaude, pas pour le chauffage. Le chauffage c'est trop cher. Juste un panneau quelques panneaux solaires pour l'eau chaude. Elle a commencé à me parler de la dame. Elle commençait à me parler. Vous êtes combien dans la maison? Je m'en fous, je veux de l'eau chaude. J'en ai rien à foutre. Je suis tout seul dans la maison. Je vois pas le rapport avec la choucroute. J'ai fini par lui dire, bah, écoutez, vous et moi, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Je vous salue. Au revoir, madame. Voilà.
Et donc, je vais continuer. Enfin, moi, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole?
Vas-y.
Et
Dolce Vita. Dolce Vita.
Donc, je vais continuer. Vous avez vu ce qui s'est passé au Japon l'année passée, je crois. C'était l'année passée ou cette année, je sais plus. Donc c'était l'année passée. Donc on assiste au, je pense beaucoup, enfin on assiste par dans certains pays un déclin du nucléaire. On veut sortir du nucléaire. Donc je pense que le projet dont j'ai parlé précédemment est intéressant. Et donc on aurait suffisamment d'énergie pour alimenter la planète, même je pense avec les déserts du monde. Donc,
moi, d'après ce que je sais, c'est qu'il y a certes il y a une compagnie française qui exploite l'énergie solaire dans le Sahara, mais le Sahara qui appartient la partie qui appartient au Maroc. J'ai vu un reportage à la télévision, elle exploite ça et donc elle fait venir de l'électricité jusqu'en France et elle distribue aussi de l'électricité aux villages marocains, d'après ce que j'ai entendu dire.
Mais les câbles, ils sont sous-marins, ils passent comment les câbles? Ils passent par où?
Je sais pas, je me souviens pas. Mais en tout cas, ils ramènent de l'énergie jusqu'en France, hein, il me semble.
D'accord.
Qu'est-ce que t'en penses, Ahmed, de ces nouvelles technologies?
Les nouvelles technologies, ok, mais stratégiquement et géostratégiquement, comment ça marche si un jour il y a un problème avec les pays d'Afrique du Nord?
Géopolitiquement,
politiquement,
c'est la rupture du contrat commercial, puis c'est.
C'est-à-dire.
Ouais. Non mais il y a des nouveaux pays qui ont du pétrole. Hein. Attention, il y a des nouveaux pays qui ont du pétrole, je ne sais plus lesquels, mais il y a la Norvège et d'autres pays qui
exploitent justement le pétrole en mer. Alors que là, si effectivement il y a des câbles qui passent en pleine mer et qui un jour demain il y a un problème géopolitique avec l'Afrique ou certains pays, ça serait un grand risque. Et en fait, c'est ça, c'est l'indépendance énergétique. C'est là le grand débat qu'il y a justement autour des pays européens et d'autres pays au monde. Hein. Quelle indépendance pourrait-on avoir?
Sophie. Moi, je voudrais revenir sur le pétrole, parce que je pense que faudra vraiment apprendre à s'en passer, puisque les ressources s'épuisent, et on va en chercher de plus en plus loin, même en Antarctique. Il y a un projet de puiser un puits dans l'Antarctique, et ça va être la catastrophe. S'il y a une marée noire là-bas, ça peut être catastrophique. Donc, je pense qu'il faudra vraiment penser à développer d'autres énergies.
Rachid?
Moi, je voulais dire à Ahmed, pour le contredire, il sait que j'aime bien, que si on imagine de futurs conflits, on n'aura jamais d'autres énergies que le pétrole. Et puis, il y aura des joueurs de foot à 15 millions d'euros qui seront achetés à l'aide du pétrole avec lequel on roule en voiture. Tu disais aussi qu'en Antarctique, il y a un projet à la France et plusieurs pays européens. J'ai Shell qui vont aller forer en Antarctique parce qu'ils ont des territoires français en Antarctique. Je trouve que c'est un peu limite. Hein.
Mais il n'y a plus de limite. Dès l'instant où on parle d'économie, d'énergie, il n'y a pas de limite. Hein.
En Belgique, par contre, j'habite à la frontière belge. En Belgique, sur tous les toits, je vois apparaître des panneaux photovoltaïques, mais vraiment en quantité importante. Hein, il y a eu pas mal d'aides de l'État et ça marche vraiment. Alors qu'en France, je vois pas la chose se développer.
Les lobbies en France.
Voilà, oui, c'est parce qu'en fait, en France, il n'y a pas eu de volonté. En Belgique, il y a eu des aides importantes à l'installation de panneaux photovoltaïques et à l'installation de cellules pour faire de l'eau chaude. Tandis qu'en France, il n'y a pas cette volonté-là. Les aides ne sont pas assez importantes par rapport à la Belgique pour développer tout ça.
En tout cas, je pense qu'il y a pas mal de solutions. Hein. Tout le monde en a en tête. Il y a le soleil, il y a le vent, il y a la mer, il y a plein de choses. Il faut juste laisser le temps et avoir la volonté industrielle de développer tout ça. Il y a aussi l'éthanol, même si ça a été fort critiqué parce que ça a créé, je pense, une crise de la faim parce qu'ils ont fait pousser de l'éthanol au lieu de faire pousser du blé ou du maïs. Mais là, ils sont en train de réfléchir à la création d'éthanol avec les déchets du maïs, en fait, des choses qui sont jetées avec lequel il pourrait créer de l'énergie. Donc il faut pas non plus rejeter complètement une nouvelle énergie dès qu'il y a un souci. il faut la développer et puis l'encourager et puis ne pas penser seulement aux conflits qui pourraient intervenir.
Allez jusqu'au bout.
Moi, je voulais dire le soleil, tout le monde appartient à tout le monde, l'humanité en profite, tout le monde en profite. Le Sahara est très chaud. Je vois pas pourquoi les autres continents n'en profiteraient pas. Donc, il peut avoir un surplus, donc on peut exporter vers l'Europe, voilà.
Mais il existe juste des capteurs solaires pour recharger les téléphones mobiles, c'est génial.
En fait, tout ça est question d'organisation. Tu parlais des lobbies tout à l'heure, c'est carrément vrai. Il pourrait y avoir, dans le futur, un lobby du photovoltaïque, comme il y a aujourd'hui un lobby du pétrole. Ce qui fait que du coup, il y a peut-être certains territoires où on pourrait plus développer le photovoltaïque que d'autres. J'imagine le Sahara, par exemple. Mais il faudrait déjà que les gens du lobby d'avant soient prêts à lâcher tout le truc,
et
à lâcher
leur pognon, en fait,
au final, c'est ça. Tant qu'ils pourront continuer à essayer de faire du pognon, ils vont aller chercher le pétrole partout où il sera pour essayer de l'exploiter. Bon, on parle de tous les pétroliers, hein, Shell...
Total,
oui, voilà, Exxon, très bon exemple. Donc, avant qu'il y ait une vraie nouvelle énergie qui se développe, je pense qu'il faudra malheureusement attendre que le pétrole soit complètement usé et qu'on ait bien pompé toute la planète.
Et finir par des conflits, parce que on sait très bien qu'autour du pétrole, il y a eu d'énormes conflits. Je reviens sur l'indépendance énergétique. Tous les conflits qui ont eu au Moyen-Orient, c'est le pétrole. C'est pas rien. Quoi.
Les intérêts des États-Unis dans tous les pays
du Moyen-Orient, c'est pour le pétrole. Dès l'instant où il y a eu des crises, c'était le pétrole.
Oui, alors moi je voulais demander, et si on se posait la question de notre consommation énergétique, puisque là on est en train de chercher où en trouver de l'énergie, mais si on se posait la question de pourquoi on en userait un peu moins, et quel prix on est prêt à payer pour cette énergie.
Oui, c'est vrai que l'énergie, si on y réfléchit un petit peu, n'est pas chère. L'électricité est parmi les moins chères du monde en France, grâce au nucléaire, entre guillemets, à cette indépendance énergétique que la France a. Le gaz n'est pas très cher malgré les augmentations successives. L'eau est parmi les pas très chères non plus dans le monde. Par rapport à beaucoup d'autres pays où l'eau est encore plus chère. Donc les énergies en France, elles sont pas grosso modo très chères, mais jusqu'où on peut considérer qu'elles sont pas chères? Jusqu'où on est prêt à les payer? Est-ce qu'on est prêt à les payer à leur juste valeur, ou est-ce qu'on est prêt et à faire attention à en consommer moins, ou est-ce qu'on n'est pas prêt à payer justement?
Moi, j'aimerais informer nos auditeurs, auditrices, qu'en fait, si depuis plusieurs décennies, nous payons l'électricité moins cher en France, c'est parce que Areva exploite l'uranium du Niger à très bas prix depuis très longtemps, et la population du Niger est très pauvre, et Areva s'enrichit sur le dos des Nigériens. Et d'autre part, revenons au pétrole, le delta du Niger au Nigeria est une véritable catastrophe écologique. Parce que les grandes compagnies pétrolières polluent la nappe phréatique de cette région, et la population de cette région meurt à cause de l'eau qui n'est plus potable, les poissons qui ne sont plus bons, qui sont impropres à la consommation à cause des nappes de pétrole qui souillent l'eau de cette région, qui polluent en profondeur la terre. Et c'est une véritable catastrophe pour ces populations, alors que le pays regorge de matières premières et la population qui vit dans ces régions est très pauvre.
Moi, ce que je voulais dire, c'est pas tant l'énergie qu'on a utilisée, qu'on paye plus cher, mais ce sont les taxes. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces taxes, taxes sur ceci, taxes sur cela, au niveau de l'énergie, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est ça qui coûte le plus cher. L'État va être bien emmerdé, parce que s'il n'y a plus de pétrole, si on arrête la production du pétrole, si on arrête d'acheter du pétrole, ou de le forer, de le piquer aux Africains. Il n'y a pas d'autre mot, de piquer aux Africains.
Aux Africains, hein.
Ouais, pas seulement.
Il y en
Mexique,
a partout dans le monde, hein,
Amazonie,
monde, hein,
que sais-je. Ouais, ouais.
Aux quatre coins du monde.
Et alors, mais ils vont taxer quoi alors? Ils vont taxer ce qui reste.
Jérôme,
je sais pas moi, Coca-Cola,
est-ce que vous êtes
Pepsi-Cola.
Est-ce que vous êtes prêt à venir à pied aux entonnoirs?
Là, Ahmed, là, vous touchez un point sensible. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est encore autorisé de brûler de l'essence. D'abord, j'ai pas gasoil. C'est moins pire. Je dis pas que c'est mieux. Je dis c'est moins pire. Mais j'ai signé une pétition Greenpeace. C'était samedi, je crois, à Lille. Et alors, moi, j'ai dit à la petite jeune femme. Et alors, je signe. Pas de problème, je signe. Mais vous et moi, est-ce que vous croyez pas qu'on est aussi un peu responsable quelque part? Elle m'a dit oui. Elle roule en diesel déjà. Voilà. Il faudrait presque être en CCCP sur les maillots de foot ou URSS si vous préférez et dire voilà stop, nous allons arrêter le diesel et puis voilà et puis tous les mecs avec leur diesel à la casse.
Et toi Ahmed, est-ce
que leur 4x4 à la casse.
Et toi Ahmed, est-ce que tu es prêt à venir à pied jusqu'aux entonnoirs?
Déjà, je le fais déjà.
C'est vrai que tu prends les transports en commun.
Évidemment, le métro. Mais oui, je venais même en vélo, ça fait 20 ans que j'utilise mon vélo.
C'est bien, c'est un acte écologique.
Ben ouais, mais j'ai pas attendu qu'un gouvernement écologique puisse... D'abord, faut balayer devant sa porte, et ensuite se dire, tiens, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait inventer de mieux? Mais j'attends pas qu'il y ait un ministre de l'écologie pour pouvoir agir. Je pense que c'est effectivement une responsabilité personnelle que de dire, voilà... l'écologie politique, un gouvernement, et moi j'attends pas après ça quoi. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des actes individuels et collectifs.
Alors et au niveau de ta maison, est-ce que tu fais aussi attention?
Alors je fais attention justement, j'utilise beaucoup de bois. Oui, non mais absolument.
Pour la construction ou
ouais,
la...
Ouais, j'utilise le maximum de bois pour la construction.
D'accord.
Ouais.
Et
il y a effectivement
des petites économies, des lampes à économie d'énergie, couper les robinets.
Effectivement, et oui, et j'ai même mis des lampes à détection de présence, justement, pour éviter les interrupteurs. Et là, dès l'instant que vous passez, et ça s'éteint après, puisque c'est les détections automatiques.
Ben moi aussi, je fais attention à toutes ces petites choses.
Bon, pour conclure peut-être ce débat, j'invite les peuples du monde à combattre l'influence des lobbies pétroliers sur tous les gouvernements qui sont parfois corrompus par ces lobbies. Voilà.
Et bien, moi, j'invite toute l'équipe des entonnoirs à venir à pied à partir de la semaine prochaine.
Ouais,
c'est Valenciennes, je sais pas comment vous allez faire.
Covoiturage.
Moi, j'ai même des serrures.
TMP, on va avoir un vélo électrique.
Pour les visites à domicile? Ah mais c'est formidable ça. Et alors une anecdote du vélo électrique. Moi il y a quelques années, j'avais demandé justement à la direction de nous mettre à disposition des vélos. Et on nous a ri au nez. Et non mais je plaisante pas parce qu'on avait l'habitude de faire nos visites à domicile toujours avec nos belles voitures et ça continue. Mais en même temps, je pense qu'en lieu urbanisé, on peut se passer, à mon avis, des véhicules. Sauf quand il faut transporter, effectivement, une personne qui est en souffrance. Mais les ambulances, elles servent à quoi?
Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il y a de plus écologique dans un vélo électrique par rapport à un vélo classique? Je comprends pas, là.
Ah, peut-être. Ah, mais moi, je sais pas.
Une voiture électrique par rapport à une voiture à pétrole.
Non, mais parce qu'on est... Je sais pas. Je pense que c'est la personne qui a osé. Qui a osé parce que c'est polluant. La batterie...
Nous écoutons Denis.
La batterie, c'est polluant.
Oui, mais un vélo électrique, en fait, ce qu'on appelle mal de mauvaise façon, d'ailleurs, un vélo électrique, c'est un vélo à assistance électrique. C'est-à-dire, c'est juste pour permettre à des gens de continuer. Si on pédale pas avec un vélo électrique, il avance pas. Hein. Donc, à la différence des scooters électriques, qui là, effectivement, il suffit de presser sur la gâchette. Mais là, non, c'est si on pédale qu'on avance, et ça permet juste à des gens, parce que souvent on nous rétorque, oui, mais à vélo, on va arriver en sueur, on va arriver fatigué, avec un vélo assistance électrique, on se promène à 25 km/h avec très très peu d'énergie.
Est-ce qu'il pollue, excuse-moi?
Oui, tout pollue, nous polluons. Maintenant, le but, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à quel niveau est-on prêt à baisser notre capacité à polluer? Est-ce que parce qu'on pollue, on dit, ben, on peut polluer tant qu'on veut, ou alors, est-ce qu'on se surveille, est-ce qu'on se regarde, et puis on regarde dans quelle mesure on peut diminuer sa pollution?
Mon papa, il avait un Solex.
Bon. Alors, juste un dernier point, c'est qu'en fait, c'est un peu biaisé, côté pollution, parce que maintenant on octroie à certains gouvernements un crédit pollution. C'est-à-dire, alors ça veut dire que certains pays qui ont pas mal pas mal d'industries et pas mal d'argent pourront s'octroyer un crédit pollution plus important que d'autres. Là, il y a une injustice encore une fois.
Et alors, et on a parlé aussi des amendes aussi par rapport aux pays qui étaient pollueurs, qui devaient payer une amende.
Oui, il y aurait aussi une économie de la pollution, c'est-à-dire que des pays peu industrialisés vendraient leur crédit pollution à d'autres.
Alors, je vous remercie tous pour ce débat qui était passionnant et passionné. Wow. Bah, je sais que on vous a laissé sur votre faim, mais on reprendra ce débat un peu plus tard. Et maintenant, nous allons avoir une petite musique de Size.
D'accord. Oui, allez, au revoir.
Alors,
au revoir.
À la semaine prochaine,
au revoir. Et bonnes vacances valenciennes. Hein.
Allez, ciao.
Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de la teinte pour Noël. Faut bronzer pendant les vacances, faut des forfaits pour oublier la solitude. Faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander. Faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants. Faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire mettre, à se faire baiser sur, à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards, ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les biberons, ouais c'est tant mieux, ça fera moins de cons. Quand ils crèveront en mutation, des grippes porcines sur des cochons. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants. Faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé. Faut rentrer dans les farandoles de ceux qui font le blé. Paraît qu'il faut virer des profs. Et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 euros. Faut que ça rapporte aux actionnaires, la santé et les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se fasse une raison, on a loupé nos transactions. On s'est laissé prendre le cul par nos besoins, nos religions. Il faut foutre le portable aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur du JT. J'accuse. Au mégaphone dans l'assemblée. J'accuse. 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 Au mégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil dans la bagnole. La carte bleue dans la chatte. Faut de la dinde. Faut se souffler, faut s'entraîner. Je me balade dans les grandes surfaces. J'ai pas assez, mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries.
Vous savez les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Écoutez les entonnoirs en podcast sur le blog des entonnoirs http://lesentonnoirs.over-blog.fr.